Mystère Loulou, dans votre salon, il y a une œuvre de mystique donc sur un parpaing. Elle a travaillé sur beaucoup de supports, et là, en l'occurrence, c'est un parpaing. Et le texte, c'est « Go home », H-O-2-M-E. Vous, vous l'interprétez comment ?
Bah, allez-y, les gars.
Parce qu'on pourrait dire aussi « Va-t'en, rentre chez toi ».
Comme moins... vous le sentez. Moi, je le prends positivement. Mais voilà, c'est tout l'humour mysticien, justement. Et c'est ce qui fait que les gens se sont sentis aussi proches de ces textes, justement. Vous allez vous l'approprier, ce texte. Et c'est ça qui a fait le succès de Mystique, c'est que les femmes, en grande partie, mais aussi les hommes, se sont appropriés ces mots. Et c'est ça qui est formidable.
La plus récente, c'est « L'homme est un loup pour l'homme et un relou pour la femme ». Voilà, j'aime beaucoup. Regarde la réalité en farce. Ça, ça la résume vraiment. Et ça résume aussi notre amitié. C'est vraiment comme une lucidité et du coup qui permet d'avoir du recul et de l'humour.
Let's nana, que ça vous mate, tout ça vous touche. Let's nana.
Mystique, 1956-2022, l'art mûr d'une poétesse. Un documentaire de Lenora Krief, réalisé par Nathalie Salle.
Je suis ici pour chanter les louanges et parler de Mystique, qui est une femme, une artiste assez rare. C'est parce qu'elle réussit quelque chose qui est rare, c'est d'imposer un graphisme sexy, drôle, etc. Et de faire des petits textes si courts et si denses en poésie, c'est mieux que des haïkus japonais. C'est suggestif, c'est extraordinaire. Parce qu'elle parle de toutes sortes de choses, d'émotions, de rapports avec les hommes et les femmes, de sexualité. Elle en avait fait deux qui parlaient du temps et je trouvais ça très beau. Il y en a un qui s'appelle « Je t'aime tant ». T-E-M-P-S, bien sûr. Et l'autre qui représente un petit couple très cucu, années 30, comme ça, et qui dit « Les mois passent ». Les mois, apostrophe,
l'apostrophe,
les mois,
E accent aigu, M-O-I.
Et cette espèce de raccourci en deux images textes de quelque chose qui est atroce, c'est la brièveté des amours, ou disons l'éphéméralité des émois, m'a semblé extrêmement fort, violent, et donc c'est une artiste rare et outre j'ai été contente de la connaître, on a fait tout de suite une, ça marche toutes les deux.
C'est dans la taille et dans le face, la zenana, c'est zenana et puis c'est basse, la zenana, quand t'as chômé devant son cul, la zenana, les chômeurs, ça coupe pas.
On entendait Agnès Varda parler de sa rencontre avec Mystique lors de la réalisation de son film « Murmure ». Mystique a longtemps été un mystère, une silhouette, de la poésie. Je me souviens encore, plus jeune, de ses visages aux ombres rouges et noires croisés au détour d'une petite ruelle de la capitale. Ces femmes, belles et fortes, vulnérables et victorieuses, revendiquent le rêve et l'érotisme tout en prenant le pouvoir. La résistance chez Mystique ne consiste pas à dénoncer la force dominatrice des hommes, mais plutôt à en trouver le point de déséquilibre. Fais de moi ce que je veux. Sorcière égarée dans un monde sans magie. Je sais compter jusqu'à toi. Avec Mystique, les murs de la capitale ne sont plus sans parole. Elle écrit « À Lacan, ses lacunes ». Peut-être manquait-il pour elle d'humour ou de légèreté. Pourtant, Mystique joue bel et bien aussi avec l'inconscient et le double sens. Dans ses poèmes, un son en cache toujours un autre. C'est au début des années 80 qu'elle enfile l'art mûr pour bomber des mots cœur, des mots qui nous trottent dans la tête, qui donnent à penser et prêtent à sourire.
Je m'appelle Jules, mon nom d'artiste est l'Atlas. Moi, j'ai commencé par faire du graffiti dans les années 90 à Paris, avec l'arrivée de la culture hip-hop. Et très vite, je me suis intéressé au mouvement de calligraphie, avec le désir de mélanger les différents courants de calligraphie de différentes cultures avec l'esprit du graffiti. Et parallèlement, je continue à avoir une activité dans la rue, quoi, et à être là à la naissance de ce qu'on appelle aujourd'hui le street art, donc début 2000, quoi. Donc voilà, j'étais déjà très observateur de ce qui se passait dans les années 80-90. Je suis né en 78 et j'ai commencé à m'intéresser à ce milieu par la photographie. Donc je photographiais tout ce que je voyais dans la rue, aussi bien les graffitis que les pochoirs. Donc je connais l'œuvre de Mystique depuis que vraiment je suis tout petit, quoi. C'est mes plus vieux souvenirs de ce qui se font dans la rue, même avant le graffiti, voilà. Je pense que j'avais pas 10 ans quand je voyais les premiers pochoirs de Mystique que je prenais en photo. Moi, j'ai grandi dans le 18e, puis dans le 20e, notamment autour de Ménilmontant. Il y avait énormément de murs peints par Nemo, Méninger et Mystique, parce qu'il y avait plein d'immeubles abandonnés ou en travaux. Parce qu'à l'époque, il y avait les pochoiristes d'un côté et les taggers de l'autre. Nous, on venait de la culture hip-hop et eux, ils venaient du rock. Donc, il y avait à l'époque une dichotomie où, même si on se croisait, il y avait une distance, quoi, voilà. Et une distance qui a disparu plus tard avec le temps et avec le fait que, de toute façon, le fait d'utiliser la rue comme espace d'expression nous réunissait, quoi.
La rue va présenter une diversité, heureusement.
Christophe Genin.
Avec des écoles, des styles. Donc, graffiti, généralement, ça recouvre le tag et le graphe, alors que Mystique relève du pochoir. Alors, généralement, on dit que le pochoir, c'est l'école française. Hein, c'est Blake Le Rat, c'est Mystique, justement. Ça va être Jeff Aerosol aussi. Il y a des artistes qui, aujourd'hui, sont internationalement reconnus. C'est 215 aussi, bon, qui forment vraiment une école typiquement française, qui, d'ailleurs, a une certaine aura, puisque Banksy a toujours rendu hommage, justement, à cette école française, et en particulier à Blake Le Rat, quoi. Bon. Donc, effectivement, ce sont des styles différents. Il y a aussi les affichistes, les stickers, il y a des interventions avec des clivages qui peuvent être d'ordre politique, économique, parce que le pochoir souvent est plus facilement intégrable au marché de l'art, puisque ce sont des pièces reproductibles, un peu sur tout type de support, alors que pour le tag ou le graffiti, dans les années 70, on a eu un certain mal à faire le transfert, un mal, je dirais, moral, hein, à faire le transfert du mur à la toile. Bon, ça s'est fait, aujourd'hui c'est chose commune, mais il y avait toutes sortes de scrupules qui pouvaient exister, quoi. Bon. Donc effectivement, il faut tenir compte de cette diversité, et même parfois avec des incompatibilités, puisqu'il y a des graffitistes qui recouvrent les pochoirs, hein, ce qu'on appelle toyer, geste d'hostilité, ou au contraire, peut y avoir des marques d'hommage. Enfin bon, il y a toute une discussion à travers les murs ou sur les murs. Bon. Et quand on connaît un petit peu le milieu ou ce que ça signifie, je veux dire, on peut repérer les réitérations, les affinités, ou au contraire, les antipathies.
Faire d'un mot le bel amant d'une phrase.
Je me suis servi d'elle en taguant au-dessus de ses pochoirs. Et quand j'ai commencé le graffiti, c'était une manière de se raccrocher à une histoire, mais de profiter de la puissance qu'elle avait déjà de notoriété dans la rue pour que les gens, au moment où ils prennent les pochoirs de Mystique en photo, prennent mon tag aussi, quoi. Voilà. C'est pour ça que je vous ai sorti cette photo.
Oui, effectivement, juste au-dessus d'un pochoir de Mystique, vous avez tagué l'Atlas. Donc là, c'était une stratégie de votre part.
C'était une stratégie, mais c'était aussi un appel, quoi. Une manière de dire que... On était là, je dirais, tout le mouvement du graffiti, et qu'on utilisait le même espace. De toute façon, voilà, hein, c'est... vu qu'on ne demande pas de permission dans la rue, on ne va pas demander de permission non plus aux autres, tant qu'on ne se repasse pas, quoi, voilà.
Et là, c'en est un autre.
Ouais, ça s'en est un autre. Donc, moi qui ne voulais pas être pochoiriste, j'ai quand même commencé par faire des pochoirs. Mmh. Et donc, je me mettais, justement, elle avait écrit ce truc libre jeu, mais jeu J-E. Et donc, je m'étais incrusté dans son mur, mais là, on se connaissait pas.
Ça se fait beaucoup, ce dialogue, comme ça, entre street artistes?
Je sais pas, mais je sais que... Bon, moi, j'ai beaucoup fait ça. Il y a des gens qui aimaient pas trop ça, mais avec qui, finalement, je suis devenu ami. Je pense à Miss Van à Toulouse, où systématiquement, c'est vrai que je lui ai un peu pourri ses murs en taguant au-dessus. Enfin, pas le mur, les gens aimaient le fait qu'il y ait les deux, mais elle, il y avait rien d'autre sur le mur. Donc, voilà... Mais c'était voilà, un esprit de provocation aussi pour rencontrer les gens. Aujourd'hui, sont tous des amis, quoi. Voilà.
Dans ma veste de soie rose, je déambule morose. le crépuscule est grandiose.
Je m'appelle Mister Lolo. J'ai commencé le pochoir grâce à Mystique, puisque c'est elle qui m'a initié au pochoir. Et que depuis que j'ai commencé, j'ai jamais arrêté. En fait, j'accompagnais la Miss pour ses déambulations nocturnes et graphiques. Donc elle posait ses pochoirs et puis à un moment donné, elle m'a dit « Mais pourquoi tu fais pas les tiens, tes propres pochoirs ?» Donc j'ai commencé comme ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, on était toute une bande de copains, dont un très actif, Prince Vaillant, et qui avait décidé de monter cette association nuisible, qui était une association de lutte contre. De lutte contre tout, c'est-à-dire là, à l'époque, c'était plutôt le sida, les discriminations, etc. Donc, on a rencontré Mystique à ce moment-là, et elle en a fait partie. On s'est vraiment rapprochés, parce que en fait, on vivait chacun un grand chagrin d'amour. Donc, on se retrouvait très triste et malheureux, donc on noyait nos chagrins ensemble dans les bars et dans les rues de Paris. Moi, j'ai dû la rencontrer en 87. Donc ça faisait déjà, je pense qu'elle a commencé au début des années 80.
Dans la rue, j'étais dans une relation amoureuse vraiment très difficile. Et c'est vrai que ça a été un peu le révélateur de la démarche que j'ai entreprise. Mais je ne suis pas descendue comme les gens font. Je ne suis pas descendue écrire « Je t'aime, moi, dans la rue, à cet homme-là ». C'est mon exaspération que j'affichais. Et c'est effectivement une part un peu revendicatrice, comme ça, où je me sentais... Et à la limite, il m'a donné le moyen de m'exprimer. Mais je ne règle pas un compte personnel, c'est pas mon roman personnel que je mets à la rue, même si ça part de mes sentiments, de mes idées, de mes pensées.
C'était l'homme lui a dit « Je ne veux plus te voir en peinture » et ça a été le déclencheur. Tu t'es dit « Puisqu'il ne veut plus me voir en peinture, je vais le suivre avec mes peintures ». C'était vraiment ça ?
Ah oui, c'était un défi. Là, ce jour-là, il aurait mieux fait de se taire. En tout cas, voilà. Maintenant, il ne me voit plus qu'en peinture.
Au tout début, ce sont des autoportraits, assez tristes d'ailleurs. Quand on regarde les figures, ce sont des autoportraits mélancoliques. Soit directement un portrait, donc un visage, soit une figure de plein pied. Et cette mélancolie, justement, elle peut répondre au texte ou en faire le contrepoint. Bon. Et puis après, elle va jouer, je pense qu'elle s'est libérée d'une certaine forme de... justement de mélancolie ou de chagrin, bon. Et il y a une joie de vivre qui apparaît avec une recherche de sensualité. Et ça, c'est les années 90, où là, vraiment, elle va cultiver les images de femmes sensuelles en porte-jartelle, jouant la carte de l'érotisme ou de la sexualité explicite, pour affirmer le désir féminin. Mais en même temps, toujours avec une très grande ambiguïté, parce que c'est un désir féminin qui se joue du désir masculin. Donc, elle va prendre des images qui sont des stéréotypes de la femme séductrice, à la fois pour montrer que la femme séductrice, elle est capable de maîtriser l'homme, de maîtriser le désir de l'homme, et en même temps pour renvoyer à l'homme la vanité de ce stéréotype.
C'est vraiment un triptyque. Hein. Dans mon travail, c'est toujours un texte, une image et la signature. Pas du tout discrète. Mais c'était aussi une façon, surtout dans la rue, de quand même, je le fais quand même pour me faire remarquer et reconnaître mon travail. Donc c'est une marque aussi un peu. Moi, je mets Mystique.
Créer, c'est résister.
On faisait des petits parcours où on retrouvait des gens et puis les intermédiaires, on bombait les rues. On mettait un pochoir, on en mettait un autre, on allait dans un bar et ainsi de suite. Il y avait surtout un bar qui s'appelait le Duplex, qui était un peu un bar d'artistes en fait. Il y avait énormément d'artistes qui allaient là-bas. Donc souvent, on partait de là, c'est un bar qui est dans le Marais, rue Michel Lecomte. Souvent, on partait de là. Non, c'était plutôt joyeux, hein. C'était très joyeux. On n'y allait pas en voiture, on était à pied, on faisait tout à pied. Hein. S'il y avait un dîner dans le 18e, on allait dîner chez les copains avec nos cartons à dessin, nos bombes, Et puis en rentrant du dîner, on rentrait à pied et on bombait dans la rue. C'était aussi simple que ça.
Donc s'il n'y a pas eu de pochoir dans le 16e, c'est parce que vous n'aviez pas d'amis dans le 16e.
Non, on n'avait pas d'amis dans le 16e à l'époque. Et puis le côté interdit de l'époque, c'était vraiment, c'était marrant quoi. C'était comme des gamins qui font une connerie quoi. Je veux dire, c'est ça. On était un peu, alors déjà trouver un joli mur qui nous plaisait et on choisissait hein, celui qui nous plaisait. On faisait attention que ce soit pas des bâtiments officiels ou quand même.
Et elle avait pas peur la nuit puisque vous l'avez suivi.
Non, Mystique, c'est pas quelqu'un qui avait peur. Non, moi j'avais peur. Mais elle n'avait pas peur, non.
Elle s'est jamais fait embêter, Mystique.
Si, bah c'est, on se faisait embêter tout le temps, hein, ou par des gens, ou par les flics surtout. Hein. On s'est beaucoup fait ennuyer par les flics, hein, en parlant poliment. C'était du flagrant délit, puisqu'ils nous prenaient en train de bomber. Et dans ce cas-là, ils confisquaient tout, les bombes, les pochoirs, ils vous emmenaient au poste, ça durait la nuit. Et puis au petit matin, ils vous relâchaient, mais sans les cartons à dessin, sans les pochoirs, sans les bombes. Et en étant fiché. Donc après, on était récidiviste.
Oui.
Donc au bout d'un moment, je ne sais plus au bout de combien de fois de récidive, là, on avait un procès.
En avant, d'août.
Je passais le périph'. C'était bagnolé, hein. C'était deux stations de métro. Et tout d'un coup, ce pochoir, c'était simple. C'était une femme avec une petite robe noire. Amazon, A-ma-zone. Et en même temps, avec ce jeu de mots, de combattante, parce que sortir de la banlieue, s'élever socialement, c'est du combat. Pour Mystique, c'était encore plus fort que pour moi. Il était à un angle de Pastourelle dans le 3e. Le pochoir était fait en 97, donc c'était entre 97 et 2000, quoi, avant que je la connaisse.
On vous appelle La Gabin.
Mm-hmm. Ouais, elle m'a connue sous ce nom-là et elle m'appelait comme ça. Et moi, je l'appelais Mystique, enfin, toujours par son pseudo.
Même en étant proche, parce que vous
Même en étant proche.
Mais on m'a parlé de vous, on m'a parlé de votre duo, vous étiez vraiment... Ouais.
Oui, oui, c'est vrai, c'était la brune et la blonde. Apparemment, ça marquait pas mal de personnes. On a commencé à travailler. Moi, j'étais plutôt la méchante et elle, la gentille. Donc, moi, je négociais les prix, les contrats, etc. Et puis, on est devenus super amis, un peu vraiment. Je trouvais son art populaire et c'était important. C'est ça qui nous reliait aussi, c'est qu'on n'a pas oublié d'où on venait. C'est-à-dire qu'elle, c'était banlieue sud, moi, banlieue est. Et en même temps, on se marrait beaucoup. C'était beaucoup de l'humour qui nous tenait. Et aussi, on se moquait de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on essayait de s'élever, de ressembler aux bourgeoises. On se faisait prêter des fringues Paris Saint-Laurent en baratinant, en disant qu'on avait une télé. Mais on avait toujours l'air de banlieusarde. Enfin, on arrivait. C'était pas possible de faire autrement.
Mystique. Où est-ce qu'elle a grandi exactement?
Elle était d'abord dans le 18e, et puis à Orly, cité des aviateurs.
Mystique, on ne la sentait pas tant dans son travail en conflit avec Paris, peut souvent se produire quand on grandit en banlieue entre colère et...
Ah non, elle, sa ville, c'est Paris. Ça a toujours été Paris.
Elle parle
plus de son enfance dans le 18e que son enfance à Orly. J'aime pas le mot transfuge parce qu'il y a une connotation un peu de traîtrise. Voilà, elle a changé de classe sociale, mais elle n'a pas oublié d'où elle venait. Mais quand même, Paris, c'était sa ville. C'était femme capitale. Quoi. C'est la plus grande galerie du monde. Il n'était pas question au départ de passer le périph pour aller faire des pochoirs en banlieue. Mais voilà, elle voulait du beau, elle voulait un bel environnement, elle voulait... la classe, être tout le temps élégante, c'est important.
Apprendre.
Moi, je l'ai rencontré dans l'endroit où j'habitais.
Pierre de Cheville.
C'était le passage Saint-Sébastien, qui était une petite cité d'artisans, les artisans du métal. qu'on faisait l'argenterie. Et c'était un bon mélange d'artistes et d'artisans. C'était très sympa. Et il y avait un bistrot.
C'était votre QG.
Notre abreuvoir. C'était... On s'engueulait, on s'aimait bien, on rigolait beaucoup. Et on échangeait nos vies, quoi. Et elle arrivait comme ça... toujours un peu mystérieuse, parce qu'on savait pas, trop où elle était allée bomber. C'était une apparition toujours mystique. Ouais. Et on buvait des verres et on rigolait bien, quoi. Elle était très drôle, elle pouvait être très provoque. C'était vraiment une parisienne, quoi. Elle connaissait tout Paris, tous les quartiers. Moi, elle m'a amené des fois manger des couscous dans le 20e, dans le 19e, parce qu'elle connaissait, elle disait que c'était le meilleur de Paris.
Il y a un pochoir qui vous a marqué, vous, tout particulièrement, Pierre de Cheville ?
Ah oui, il y en a un qui m'a marqué parce que je me suis senti visé. Et quand on se sent visé, ça veut dire qu'on existe. J'ai beaucoup aimé ça. Entre volupté et vaisselle, je ménage ton bricolage existentiel. D'abord, c'est tellement bien écrit. En tant qu'homme, quand on prend ça dans la figure, ça fait du bien. Ça vous...
ça vous remet à votre place.
ça remet exactement.
Ouais. Et c'est vrai que derrière ce pochoir, il y a l'artiste et il y a la femme.
Ouais. Ben, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'elle est tellement femme, mystique. Et elle a exprimé ça, quoi, sa féminité totale.
Est-ce qu'elle se revendiquait comme féministe ? Alors, la réponse est complexe, parce que Mystique était complexe. Bon. Elle était féministe par ses actes, mais encore une fois, elle ne voulait pas se ranger derrière une bannière. Et donc, elle ne voulait pas se déclarer féministe à la manière, je dirais, de Judith Butler, pour parler de féministe plus contemporaine américaine. Bon. Mais... elle, c'était vraiment son féminisme, il était dans la relation à l'homme, dans la relation à l'individu. Pour vous donner un exemple, cette inversion du pouvoir, c'est parce que Mystique a dû, au sens propre, se battre pour exister dans un milieu masculin et même machiste. Il ne faut jamais l'oublier, mais le milieu de la rue ne laisse pas particulièrement place aux femmes. Alors, maintenant, comment gagner sa liberté ? Mystique vient d'un milieu modeste, elle s'est cherchée pendant quelque temps, et puis elle a cette opportunité de faire des pièces de rue, des œuvres de rue. Elle doit conquérir une notoriété, elle doit conquérir une respectabilité, et puis aussi, en tant que femme, elle est donc confrontée à un pouvoir masculin qui est quand même dominant en tout et pour tout. Bon. Donc la question, ça va être de choisir la méthode de lutte. Il y a des méthodes féministes, des méthodes de choc. Les fémènes, par exemple, représentent une méthode. Bon. Elle a choisi justement une méthode libertine, au sens propre du mot, hein, au sens du libertinage du XVIIIe siècle. Libertine, ça veut dire que la femme va affirmer son désir et donc, en même temps, pouvoir... capter une autorité sur l'homme en jouant du désir masculin contre lui-même. Son fameux pochoir « Je serai ta gueuse », immédiatement, ça parle à un regard masculin. Alors, « Je serai ta gueuse », donc G-U-E-U-S-E, donc une gueuse, bon, qui effectivement, à l'époque, fait un jeu de mots sur une tagueuse. Bon, c'est un peu comme dans les dessins animés Le Loup face à Betty Boop. Bon, tout de suite, on se dit « Ah, il se passe quelque chose de sympa », et puis après, on se dit « Mais attention, est-ce que c'est vraiment ce que pense l'artiste, ce que pense l'autrice ?» Bon. Et donc là, après, il y a ce retournement dialectique, hein, qui est que, Mystique d'ailleurs le dit, tel est pris qu'il croyait prendre, et c'est elle qui prend, c'est pas le regard masculin. Donc il y a cette manière de dire, de saisir l'homme au jeu de son propre regard. Bon. Donc ça, c'est une dialectique subtile qu'elle réitère dans toutes ses œuvres et qui finit par tisser, alors je disais, il n'y a pas de doctrine chez Mystique, il n'y a pas de théorie, mais qui finit par tisser une constante. C'est une constante de sa personnalité.
L'homme et le passé de la femme.
There's something wrong, like my brain's gone. Nothing.
from drinking but from living. My last girlfriend was a drinker. She lost her dog. His name was Thinker. The sunlight in her eyes shows her rage. I wish I'd never seen her face. I still got her red lipstick.
Et puis il était assez précurseur de projeter dans ses images sa pensée politique au sens d'un rééquilibrage un peu d'une...
Jean Faucheur, artiste peintre.
Elle était pour la polarité, parce que c'était quelqu'un qui aimait les hommes, je pense. Mais en même temps, il y avait quelque chose à rétablir, quoi. Et je pense que ses formules tendaient vers ce rétablissement un peu de cette balance qui depuis des siècles est pris par les mains des hommes et dont on essaye aujourd'hui d'ailleurs de remettre en question, et que je trouve une bonne chose. Et elle le faisait avec ses armes, quoi, avec le texte, avec des formules tellement raccourcies que c'est quand même extraordinaire, que ça nous donne envie d'être féministe en trois mots, quoi. Enfin, ces phrases, c'est vraiment la tradition libertaire des formules. Par exemple, tout politicien rasoir doit être jetable. Ça, c'est une phrase qu'elle aurait pu écrire. Leur bourse ou ta vie.
Ah oui, donc vous voyez une inspiration libertaire dans son
travail. Je pense qu'il y a une grande tradition libertaire où on joue avec les mots. Et en fait, elle est très politique dans ses slogans, qui sont des fois abrupts. Parce qu'en fait, quand on les voit, on les lit, et puis il y a une sorte de deuxième souffle, où on se dit « Ah oui, oula, elle y va, quoi !» La phrase est comme ça, puis en plus ça, il y a toujours ces jolies femmes, très élégantes, sur des talons aiguilles, parce qu'elle était très élégante. Elle était vraiment une attention particulière à toujours être bien fringuée. Et ces phrases sont un peu... Voilà, il y a ces personnages qui sont là, un peu hiératiques, qui vous regardent de haut. Et puis cette phrase, c'est le truc qui vous renverse et qui vous amène un peu dans une autre dimension. On sort de l'anecdote de l'image pour entrer dans celui d'une critique plus, je dirais, plus contemporaine. C'est à chaque fois des trouvailles. Je ne vais jamais poser de questions sur pourquoi, comment elle trouvait ces phrases. Mais je trouve que c'est vraiment une... Elle est surprenante pour ça, quoi.
Quand, par exemple, je vais demander à consulter ses cahiers, parce que ça m'intéressait beaucoup, au début, elle était très, très réservée, très pudique. Bon, elle se demandait oui, non, bon. Et puis après, je dis, bah si, parce que moi, je pense que c'est là qu'il y a justement quelque chose d'original. Et à ce moment-là, elle m'a montré ses cahiers. Et du coup, je crois avoir mieux compris la personne à ce moment-là, quoi. Bon. Elle avait donc des cahiers et elle fonctionnait par éclair. Donc sur ses cahiers, elle jetait une phrase qui lui allait ou qui ne lui allait pas. Et d'ailleurs, j'avais constaté qu'il y avait très peu de ratures. Mais du coup, il y avait beaucoup de propositions qui n'étaient pas utilisées. C'est-à-dire que c'était pas un travail, j'allais dire besogneux, où on écrit, on réécrit. Pour elle, la formule devait sonner. Où elle l'a laissé tomber. Mais en même temps, j'avais vu, par exemple, que peut-être 10 ans après, dans une nouvelle pièce, si je puis dire, elle reprenait une proposition qui était dans un carnet de ses débuts. Donc, il y avait une manière de laisser mûrir une proposition, je pense jusqu'à trouver l'image qui pouvait lui correspondre. Jusqu'à ce qu'elle trouve que la coïncidence entre l'effet de la proposition et l'effet de l'image soit parfaite. Bon. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que ces pièces de rue frappent au premier coup d'œil. C'est-à-dire qu'il y a aussi bien, c'est un éclair qui lui arrive, une toute proposition, un aphorisme, une proposition très courte, voilà, hop, elle l'écrit. Et en même temps, pour le spectateur qui découvre ça au coin d'une rue, il faut aussi qu'il y ait cet effet de subjugation, de flèche.
revenir au cœur de mon sujet, revenons au corps du sujet, qui est la femme. Et oui, la sensualité, je trouve que, ouais, on est dans un monde aussi, je parlais d'amour tout à l'heure, mais où on pourrait aussi parler d'érotisme. Et ce sont des choses, bon, moi, qui me concernent, qui me touchent, dans tous les sens du terme, même littéralement, latéralement. Et oui, voilà, oui, j'ai envie de faire passer de la sensualité, voire de l'érotisme. Donc c'est ça que je vais chercher, c'est ça, c'est dans la séduction, c'est dans ces rapports ouais, de désir, d'appétit, ouais, où c'est vital, c'est fondamental.
Qu'est-ce que tu mets derrière le mot érotisme ?
Bah, dans le mot érotisme, c'est l'essence. Alors c'est la sexualité, bien évidemment, mais c'est l'essence, c'est après l'ondée, c'est une odeur, c'est un parfum d'homme. Voilà, c'est des choses qui rappellent l'humain, mais dans le raffinement, dans la caresse, dans quelque chose qui parle au corps.
Il y a un de ces pochoirs où elle écrit « Je m'écris, tu me lis ». Avec une femme et les mains et ses mains sont liées par un ruban. Et je me disais qu'il y avait un peu toute la vie de mystique dans cette phrase, puisqu'elle écrit, elle s'écrit, mais en même temps elle reste vraiment liée, accrochée à son désir.
Oui, c'est pas les liens dans le sens la prison, même si là je pense que le lien qui enferme, c'était plus dans le domaine de l'amour. Parce que voilà, c'était une grande amoureuse. Elle était mariée deux fois, je crois, mais surtout son mari. Ils avaient divorcé, ils devaient se remarier quand il est mort. Je sais que ça a été une très, très grande douleur. Elle aimait bien l'amour pour le côté travail, passer de l'émotion au sentiment, enfin, se civiliser un petit peu. Et en même temps, les hommes, surtout de notre génération, c'est costaud. Faut être solide, ouais. En fait, ce qui comptait pour elle, quand elle disait c'est un homme, il faut qu'il y ait quelqu'un dedans. Donc son mari, il y avait quelqu'un dedans, c'est sûr. Elle qui contrôlait tout. Quand on est obligé de tout contrôler, puis qu'on a 16 piges, de pouvoir payer son loyer, de pouvoir acheter des pâtes, de pouvoir faire un pochoir dans la rue sans se faire embarquer, de trouver une galerie. L'amour, c'est quand même un bonhomme avec quelqu'un dedans, une épaule, je pose un peu ma tête... Voilà, ça permet un petit rêve, un truc de jeune fille, même de petite fille. Le côté princesse qu'on mettra pas dans les pochoirs, mais sans qu'elle y croit vraiment. Elle devenait pas naïve, mais au moins, c'était un peu le repos de la guerrière, quoi.
La photo sur votre cheminée.
Celle-là, je l'adore. Ce jour-là, c'est une séance photo. Enfin, elle avait demandé à un ami photographe, il me semble qu'il s'appelle Arnaud Brunet, et on avait fait une virée au Père Lachaise. On s'était installé sur la tombe d'Apollinaire. C'était peu après la mort de son mari. On s'est amusé à prendre des photos avec des plaques à mon mari, en pleurs, bien lyrique. Et on avait sorti deux coupes de champagne, jusqu'à ce qu'on se fasse jeter par le gardien qui nous a appris qu'il était interdit de boire de l'alcool dans les cimetières. Ce que je trouve incongru, parce que c'est quand même le lieu où on a envie de boire. Mais on s'était bien marrés.
Et là, les deux, alors vous avec le manteau léopard.
La doudoune léopard panthère, les grandes bottes
de mystique,
les cuissardes à talons,
bon,
la cigarette, ça, les deux tabagiques.
Quand vous dites la mort de son mari, vous parlez de Pierre Nova.
Oui. Mm. À la mort de sa vie. Hein. Mm. Mm. Le père de Charlotte et Antoine. Mystique n'a pas eu d'enfant, donc c'est leur belle-mère, qui sont donc maintenant ses ayants droit.
Le voyage est familial, la route nationale, l'accident fatal, fin des vacances. Autour de moi, des cadavres, expérience sauvage. L'énigme de mon destin se joue là, devenir l'autre, la survivante, malédiction ou privilège. Fillette en âge, j'échappe au naufrage. je suis au bord de la mer morte. Dans le fossé de la peur, mon corps géométrie s'est brisé. Dans ma bouche, un goût de malheur, sans partage. Disparition définitive de ce que j'aime. Je n'ai plus rien à perdre, à part moi. Sacrifice intérieur. Culpabilité secrète. Je vais passer un temps fou à déterrer les mots, là où la vérité est enterrée, mais je ne le sais pas encore. J'ai 10 ans et je n'ai plus d'âge. Hôpital des enfants malades. On me répare sans me consoler. Ici, les enfants jouent avec leurs pleurs. Je voyage en chirurgie. Un pays où l'on soigne ceux qui saignent. Transfusion, perfusion, le temps goutte à goutte. De greffe en lambeaux, on me récupère. Mes tristesses nocturnes se transforment en cafards. Ils grouillent dans l'obscurité, petits soldats de mon chagrin. J'apprends à aimer les animaux. Dans cette chambre sans ciel, je ne sais pas quoi faire des nuages, que je n'aperçois pas. Tous ces mois allongés passent à travers moi. J'avale des livres comme on avale des somnifères. J'apprends l'odeur du pu en même temps que la littérature. Souffrance initiatique. Je m'impatiente, je dois exister et incarner un drame familial. Je suis le résumé d'un fait divers. Dans mes illuminations, des poètes, je suis parti de zéro vers l'infini. J'ai trouvé ma voie parmi les souvenirs à inventer. Et toujours ce sentiment de l'œuvre à venir, ce mystère en moi.
Extrait de l'ouvrage de Mystique, À la vie, à la mort, A-M-O-R. Antoine Nova, pourquoi vous avez choisi de nous lire cet extrait d'un ouvrage de Mystique ?
Par pudeur et pour respecter sa pudeur à elle, je voyais pas ce que je pouvais ajouter d'autre que ce que ses amis vont dire. J'ai identifié ce texte que je trouve très beau, d'abord parce que c'est ses mots à elle. Elle évoquait très très rarement cet épisode fondateur, par pudeur, mais aussi je crois que parce qu'elle n'avait pas du tout envie qu'on la plaigne. Elle aimait la vie, peut-être que cet événement tragique l'a aidé dans le futur à apprécier les bons moments de la vie ou ce qu'il y avait de beau dans la vie. Mais c'est vrai qu'elle ne voulait pas du tout qu'on la plaigne, ni qu'on soit au courant de sa vie privée. Et voilà, donc elle ne le cachait pas non plus. C'est comme son handicap, elle s'était, à la suite de cet accident, elle s'est retrouvée handicapée d'une main. Elle n'en parlait jamais, mais elle ne cachait pas sa main. Ça l'a définie.
Là, moi, elle m'impressionnait pour ça. On se connaissait bien, donc je pouvais savoir ce qu'elle ressentait juste par ses yeux. Mais déjà, elle détestait se plaindre, elle détestait le pathos, les chialeries. Mais elle a morflé. C'est vrai, l'accident de voiture, perdre sa mère, sa grand-mère, son frère, puis son père 3 ans plus tard, se retrouver toute seule. Oui, c'était galère. Et moi, quand je l'ai connue, même les années 2000, elle n'avait pas un rond. On ne mangeait pas bien, hein. C'était difficile. Tout le monde pensait, elle a même eu un contrôle fiscal. Tout le monde pensait qu'elle était richissime, millionnaire, mais pas du tout.
Elle vous a parlé d'ailleurs de cette reconstruction. Après, elle s'est retrouvée quand même, comme vous dites, à 16 ans orpheline. Mm. De ce passage de sa vie ensuite, comment se reconstruire après ça ?
Elle a foncé, quoi. Elle a bossé tout le temps. Elle a trafiqué sa carte d'identité pour pouvoir travailler. Elle a fait des petits boulots, elle a été graphiste. Elle m'a même dit un jour, j'en pleurais tellement c'était horrible de me lever le matin pour aller bosser dans cette boîte. Et très solitaire, quoi. Elle a fait du théâtre de rue, elle a fait des trucs marrants. Hein. Elle a bougé, mais il fallait qu'elle bouge tout le temps, elle ne s'arrêtait jamais.
Puisqu'on parle aussi de ce qui vous réunissait, ce qui vous unissait même, c'était l'amour de la poésie, la passion pour la poésie. Mystique, c'est une grande lectrice de poésie. Là, c'est vrai que vous avez un petit encadrement. Là.
La poésie est un luxe de première nécessité. Elle avait dû faire ça pour faire une carte de vœux. Elle était plus calée en poésie que moi. Elle avait un rayon, une bibliothèque énorme. Elle, ça l'a sauvée. C'est-à-dire qu'à Orly, dans le milieu dans lequel elle était, elle a rencontré, il y avait une maison pour tous. Enfin, voilà, les choses qu'il y a culturellement dans les banlieues, c'est quand même pas mal. En tout cas, à cette époque-là. Et une voisine, sa mère était instite, elle a connu Prévert, elle a écouté des chansons, elle a lu des bouquins, elle a eu accès à la culture comme ça. Et pour elle, c'était vital. C'est ça qui va faire que je vais m'en sortir. Parce que, voilà, une cité des aviateurs, c'est des immeubles à perte de vue. Enfin, les cités qui ont été construites voilà, dans les années 60, c'est des cours des miracles. Vous restez là et surtout, vous ne sortez pas de votre quartier, quoi.
À Orly se construit l'aéroport d'Orly dans les années 60. On va chercher des maghrébins, en l'occurrence en Tunisie, pour construire l'aéroport. Ton père fait partie de ça. Ils rencontrent une Française. Ils habitent dans un HLM à Orly, le quartier des aviateurs, puisque chaque rue, chaque quartier porte le nom d'un aviateur célèbre. Et puis donc, elle grandit à Orly, qui est à l'époque une mairie communiste, tenue par Gaston Viens, qui connaissait donc Mystique toute jeune, et qui, justement, s'était souvenu d'elle, puisqu'il lui avait passé commande après donc des fresques de Léo Ferré. Donc, elle ne voulait pas, par exemple, être présentée comme la beurrette de service. Ça l'agaçait terriblement, bon, parce qu'elle disait, voilà, on va me coller une étiquette, alors que moi, je fais tout à fait autre chose. Parce qu'elle disait, il y a un risque de réduction.
Fille d'immigrés.
Oui, voilà, fille d'immigrés. Et elle disait, non, voilà, je suis française, je fais une carrière en France. Donc, fille d'immigrés, c'est une étiquette qu'elle trouvait profondément réductrice. Elle a été intégrée, assimilée, sans perdre son identité, mais elle ne voulait pas de condescendance.
Là, Lélia Murdoch, on est dans votre salon, et dans votre salon trône un grand tableau de Mystique, donc avec un pochoir et son texte. Je vous laisse lire le texte.
Faire le mur, jouer la fille de l'art.
Mystique est très présente dans votre salon.
Ah oui, oui, oui. Ben, elle a été très présente dans mon salon, dans ma vie. Je suis ravie qu'elle soit là. Alors là, on a une figure extrêmement combative, puisque on dirait qu'elle fait un petit peu de kung-fu. Et donc, c'est une femme brune, comme beaucoup des figures de Mystique. Et évidemment, ce n'est pas un autoportrait. On a des autoportraits, mais ça, ce n'en est pas un. Et faire le mur a évidemment un double sens, puisqu'il y a son puir et puis il y a peindre sur les murs. Et jouer la fille de l'art, c'est une fille de l'art. Alors, ce sont des affiches lacérées, marouflées sur toile, sur laquelle elle a rajouté un pochoir. Ouais. Des pochoirs. Parce qu'il y a les pochoirs du texte et le pochoir de la femme qui danse en combattant sur ce mur.
Et justement, Mystique, quand elle a effectivement exposé en galerie que ses œuvres sont devenues des tableaux. Certaines sont restées sur un fond uni, mais d'autres ont été effectivement agrémentées de couleurs.
Ça dépendait beaucoup des expositions. On a eu des expositions en rose et gris pour répondre à l'affiche qu'elle a faite pour un film de Lelouch. Après, on a eu une exposition en rouge, où la dominante, c'était des figures sur fond rouge. Et on a eu des palissades, beaucoup de palissades aussi. Il y a eu des tôles. Par exemple, l'exposition Go Home, il y avait en majorité des palissades et des tôles. Il n'y avait pratiquement pas de toile. Non, je crois qu'il n'y avait même pas de toile, pour quelques petits formats peut-être. Comme beaucoup d'artistes hein, qui peignent par série. Comme ça date l'œuvre et puis ça permet d'avoir une unité.
C'est une évolution logique, en fait. Plus elle a été connue, plus... voilà, les galeries ont commencé à demander de faire des pièces. Qu'elle a fait, quoi. Mais c'est un autre travail. Elle a été beaucoup critiquée pour ça.
Alors je suis sortie dans la rue pour sortir de mon atelier et maintenant on me ferme la porte de mon atelier et on me dit tu restes dans la rue. Alors non, je fais plein de choses et j'ai le droit de travailler dans mon atelier, d'exposer dans des galeries, de faire de la gravure, des affiches, d'écrire des livres. Je me donne toutes ces autorisations-là, même si les autres ont envie de voir en moi le pur et dur qui ne ferait que de la rue. Eh ben non.
C'est le problème des personnages publics, ils appartiennent au public et il faut que le public continue à pouvoir imaginer ce qu'ils sont... Enfin, ils projettent aussi. Hein. On attend d'eux hein, quelque chose de particulier. Et puis aussi de la jalousie. Enfin, ça la mettait pas en colère, mais c'était décevant. Enfin, ils imaginaient quoi? Que c'était Che Guevara même si la révolution, ça lui plaisait bien. Mais une fois, elle a fait un pochoir, comment payer son loyer? Enfin, oui. Et en plus, c'est des œuvres en galerie. C'est pas... Elle voulait pas être associée avec n'importe quelle marque. Et c'était toujours cohérent. Il n'y avait pas d'incohérence. Même quand c'était pour une marque, un produit, un sac, c'était cohérent. Il y avait un support, bah tiens, c'est du cuir, bah tiens, c'est de la tôle, une camionnette qui va circuler partout. Louer, c'est rester libre. C'est pas non plus un slogan horrible. Il y a certaines marques, elle a refusé. C'est ça aussi que les gens ne savent pas. Il fallait que ça soit cohérent avec, avec son œuvre, avec ce qu'elle était.
Ce qui m'éloigne de moi me sépare des autres.
Je n'ai pas peur de la route, faudrait voir, faut qu'on y goûte. Des méandres au creux des reins, tout ira bien. Le vent l'emportera.
June L'Atlas, cette première rencontre.
Bon, en tout cas, celle dont je me souviens, c'est Place Saint-Sulpice. Je pense que c'est en 2002 ou 2003. Et il y avait une foire organisée à Saint-Sulpice. Et elle avait un stand. Et on s'est rencontrés comme ça. Et l'année d'après, on a refait cette foire. Elle avait fait une installation avec Jean Faucheur où ils avaient créé comme une chambre où ils jouaient le couple. Et c'est moi qui avais réalisé la vidéo qui passait dans la télé de leur chambre. Qu'on avait fait dans notre atelier, où voilà, comme si c'était 24 heures de leur vie de couple agité dans une chambre fermée, quoi, voilà.
Et donc on s'était habillés, elle en nuisette et moi en pyjama, la télévision, un lit, des bouteilles de champagne, parce que ça, on pouvait pas s'en passer, surtout elle. Et voilà, et des tableaux au mur, donc voilà, on avait décidé de passer 24 heures ensemble. Et c'était drôle de vouloir faire une... non pas une exposition en commun, mais d'avoir, je dirais, dans le même espace, à vivre, à recevoir les gens, à parler avec eux, à distribuer les claques. Très, très bon moment, j'avoue.
Et ça, c'est le mur qu'on avait fait dans le 13e, qui était vraiment rue de la Butte aux Cailles au début. Elle avait déjà fait le toit, elle nous avait invités avec Jean. Elle avait marqué « Redouter ce qu'on souhaite, souhaiter ce qu'on redoute ». Et là, le personnage marchait sur la typo et Jean avait fait un œil...
Ah oui, là, c'est une vraie structure à trois, ouais, là,
ouais,
sur le mur.
Ouais, ouais. Ouais. C'était au moment de cette installation, quoi, pour marquer le coup. On avait fait ce mur ensemble, qui a disparu.
Mais vous êtes finalement assez peu nombreux à avoir collaboré avec Mystique.
Pour cette raison qu'elle ne voulait pas se mélanger avec les gens qu'elle n'aimait pas. Et il y avait peu de gens qu'elle aimait. C'est une sorte de Marianne, une sorte de Marianne Sartrapi du graffiti, quoi. Elle était... elle n'avait pas de temps à perdre, quoi. Et à partir de là, on est vraiment devenus amis, et également avec la Gabin, qui était tout le temps avec elle. Donc pendant ces années-là, on a passé beaucoup de temps donc avec Tank et Sunset, qui sont mes deux meilleurs amis, avec elle, et vraiment à passer des soirées avec elle, je veux dire, même en dehors d'une création artistique, quoi. Donc on allait dans le 13e dans son atelier, on a passé beaucoup de nuits à déconner.
Bah, elle invitait des personnalités, il y avait des acteurs, des magiciens, des prestidigitateurs, des gens que j'avais jamais rencontrés, et c'était toujours très joyeux, et elle régnait sur ces soirées-là comme une princesse, quoi. Elle survolait ça, elle présentait les gens, elle râlait, elle gueulait, et c'était vraiment des jolies soirées. J'ai me souvenir de 2-3 soirées comme ça, vraiment un peu miraculeuses. Voilà.
Dans un ouvrage où vous avez écrit un petit texte, vous disiez que il y avait quelque chose dans ces soirées qui vous rappelait la dynamique des années 80. Et vous parlez notamment de ces rencontres désintéressées. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ?
Si on essaye de définir ce qu'étaient des soirées dans les années 80, c'était des choses un peu excessives, légères, beaucoup de légèreté, de fun. C'était un mot qu'on utilisait beaucoup à l'époque, c'est fun. Si c'est fun, c'est bien. Si c'est pas fun, c'est pas bien. Voilà. Donc il fallait que ce soit drôle, étonnant, avec des personnalités qui se mélangeaient, comme on pouvait mélanger, par exemple, au Palace, à l'époque, des acteurs, des peintres, des intellectuels, des PDG, enfin tout ça. L'idée du mélange était une idée très forte des années 80, je pense. Quand on a envie de mélanger les genres et qu'on y prend du plaisir et puis qu'on jouit de ça, ben, on le répète.
Je suis né passage de la bonne graine, j'en ai pris de la graine et pour longtemps. Je travaille comme un chien toute la semaine. Je vous jure que le patron, il est content. Mes amis se sont mis en colère. C'est pas bien malin ce que tu fais là. Bon, ce qu'il faut, mais toi tu exagères. Tu verras qu'un jour, tu le regretteras. Je m'en fous pas mal.
Alors, j'ai le même âge qu'elle. Nous sommes tous les deux des singes de feu en horoscope chinois. J'aime bien l'idée de dire qu'on est... Elle est assez fluide dans le monde, quoi. C'est quelqu'un qui est bien un peu partout. Et quand elle n'est pas bien quelque part, elle s'en va. Des fois, un peu bruyamment, mais elle le fait. Le problème, c'est que je l'aimais.
Que vous l'aimiez ?
Mais oui, oui, bien sûr, parce que je pense que c'est quelqu'un que l'on aime. Ou alors, disons que ce qui est très bien avec elle, c'est quand elle vous aimait, vous pouviez à ce moment-là l'aimer. J'aimais beaucoup son côté grinçant, son côté, par moments, qui pouvait être agressif avec le monde qui l'entourait quand quelque chose ne lui plaisait pas.
Enfin, elle avait un côté où elle était très pudique, en fait. Elle avait son personnage, bon, qui était intègre, qui correspondait, mais elle avait, par rapport à sa vie personnelle, elle mettait des barrières par rapport à tout le monde, même aux gens proches. Et après, physiquement, bah, elle était toujours habillée assez, de manière assez sexy, quoi. Elle se mettait en avant et complètement séductrice. Non, d'ailleurs, on était à ses pieds, hein. On avait 20 ans de différence, mais on avait la bouche ouverte. Quand on la regardait, on était complètement...
C'est au-delà de l'amitié, hein. Ce que j'ai vécu avec elle, c'était... Pour moi, Mystique, c'était la femme de ma vie. Donc, je le dis aujourd'hui qu'elle n'est plus, mais c'était vraiment ça. On s'est dit qu'on serait les fiancés platoniques éternels.
J'ai traversé des pays et des hommes.
À un moment donné, elle a pu s'acheter une bergerie en Corse, qu'elle a aménagée petit à petit, dans un pays absolument sublime, au-dessus de l'île Rousse. C'est l'endroit où Robin Ranucci a son théâtre, un très beau théâtre. Et oui, c'est très très beau là-bas. Et elle m'a invité à passer un Noël dans sa bergerie. Et elle, pour vivre en Corse, elle a dû passer son permis à plus de 60 ans. Ça montre la liberté. Moi, j'ai plein de copains qui ont plus de 60 ans. Ils leur viendraient jamais l'idée de passer leur permis. Ce serait horrible pour eux. Elle a passé son permis et elle est venue me chercher à l'aéroport. Et elle m'a dit, on va pas pouvoir passer par la route habituelle parce qu'il y a trop de neige, il y a trop de verglas. Je me suis dit, mon Dieu, dans quoi je m'embarque? Et ben, elle a conduit au milieu des congères, du verglas, d'une manière tellement sûre et tellement... Moi, en général, je suis un peu trouillard quand je suis à la place du mort. Et incroyable. J'ai pas eu une once de trouille. Vraiment au chapeau. Grande conductrice aussi, vous voyez. Elle menait sa barque et bien sa voiture.
Tout achevé, sauf le désir.
Est-ce que son œuvre, elle a pu un peu déranger? Est-ce qu'elle était peut-être trop politique? Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Non, je pense pas. Je pense que comme elle était une des pionnières, elle a mis plus longtemps à percer. Et de la même manière, je le ressens aujourd'hui, où des gens plus jeunes que moi vont beaucoup plus vite. Parce qu'à l'époque, pour connaître quelqu'un, il fallait le rencontrer, quoi. Enfin, on se rend pas compte, mais à Paris, on était 40 à faire ça. Enfin, on se connaissait tous. Mais il fallait aller dans les chantiers pour croiser les gens. Donc, je veux dire, la vitesse était très lente comparé à aujourd'hui où voilà, on peut tout de suite parler avec quelqu'un à Tokyo et demain y être et faire quelque chose. La génération de mystiques a mis plus de temps à être reconnue. En plus, ils ouvraient des portes et ça plaisait pas. Donc forcément, je pense que c'est pas que l'œuvre, quoi. C'est lié au fait que ce mouvement a 50 ans et qu'il est reconnu et que les gens qui arrivent aujourd'hui bénéficient un peu de comme la force d'une famille, quoi, d'un père, d'un grand-père qui a déjà développé des choses et du coup, mentalement et psychologiquement, pour nous, c'est acquis. Je pense que c'est surtout ça qui a joué dans ce mouvement, quoi.
Et ce qui était formidable à l'époque aussi, c'est que comme c'était tout neuf, tout nouveau, on était très peu et qu'on avait, bah, Paris était à nous, c'était des territoires vierges qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui d'ailleurs. Enfin voilà, c'était un grand, des grandes surfaces à peindre, c'était nouveau, c'était transgressif, c'était subversif et c'est ça moi qui m'a plu et intéressé. Et tout de suite, j'ai eu envie, j'ai su même que je voulais m'inscrire dans la mémoire de Paris, que j'avais quelque chose à faire là. Voilà.
J'ai le mal de l'air. E, R, E.
Elle avait demandé à ce que plusieurs artistes gravent son cercueil. Donc on avait organisé ça avant avec une liste d'artistes qui sont venus faire plein d'inscriptions. C'était super joli, il y a des super photos là-dessus. Donc les gens ont pu rentrer, faire le tour du cercueil. Il y avait du monde. C'était incroyable en fait. Ce public, ces gens qui aimaient tellement ses œuvres. Et puis surtout, à la sortie, il y a un des artistes qui s'est pris un gros coup de poing par un autre artiste. Et là, je me suis dit, oh, faut que je le dise à Mystique, elle va se marrer. Et en me disant, il y a le côté punk des funérailles qui lui va très bien.
Oui, oui, elle me manque beaucoup, la Miss, bien sûr. Il y a un pochoir d'elle qui résume bien ça, c'est « L'absence est une drogue dure ».
Parisienne, femme capitale. Elle croyait à l'éternel féminin. Elle était une bombe textuelle. Elle avait plus d'une corde à son art. Elle a fait d'un mot le bel amant d'une phrase et partie de zéro vers l'infini. Elle griffait pour un oui ou pour un non-dit. Elle nous dirait à tous, ma plus belle histoire d'humour, c'est vous. Souriez, vous êtes vivant. Vivre, c'est de la bombe. Alors soyons heureux en attendant le bonheur, parce que c'est la vie, ça va passer. Et maintenant, circuler, il y a le monde à voir.
Mystique, l'art mûr d'une poétesse. Avec Christine Gabin, dite La Gabin, assistante, agente et amie de Mystique, Lélia Murdoch, éditrice et galeriste à Paris et Miami. Jean Faucheur, artiste peintre, cofondateur du MUR et président de la Fédération de l'art urbain. Jules Dedé, dit l'Atlas, artiste contemporain. Christophe Genin, maître de conférences à la Sorbonne en philosophie de l'art et auteur d'un ouvrage sur mystique. Mister Lolo, artiste peintre. Pierre de Chevilly, artiste peintre, et Antoine et Charlotte Nova, beaux enfants de Mystique. Diffusion d'un extrait du documentaire de Thomas Granowski, Rencontre avec Mystique. Archivina, Isabelle Fort-Rendu. Prise de son, Nicolas Mathias. Mixage, Manon Houssin. Coordination, Christine Bernard. Attachée d'émission, Sylvia Favre. Merci à Maxime Gurier, Nathalie Benat et l'artiste Tank. Un documentaire de Lénora Krief, réalisé par Nathalie Salle.
Just a moment. السوارى برا برا نفذ الحزن ما بقى امان برا برا العطش بالناس منحوسين برا برا لحرمه الضمره